Europe 1.
Imaginez la scène. Vous en avez peut-être vécu, vous-même, des moments comme ça. Un papa qui débarque à la maternité avec ses trois enfants pour venir voir maman et le minois du petit frère, du petit dernier. C'est un moment très fort, très fort. Le 30 août 2013, Benoît, 32 ans, débarque donc à la maternité de Rennes avec ses trois enfants, Sybille, Louise et Arthur, pour leur faire découvrir, dans les bras de maman, Marie-Axelle, leur petit frère qui vient de naître, Gaspard. Les grands ont apporté des peluches, un petit lapin et un ourson. On n'oublie pas ces moments-là, jamais. Surtout quand on a voulu une famille nombreuse, quand on croit à la famille. Et puis voilà, trois jours plus tard, Marie-Axelle rentre à la maison avec le petit Gaspard dans ses bras. Et là, je dois vous dire quelque chose que vous n'êtes pas obligé de croire. Mais Marie-Axelle, pile à ce moment-là, quand elle rentre chez elle, dit qu'elle a un mauvais pressentiment. C'est difficile à décrire, une angoisse, quelque chose qui lui noue le ventre. Un truc en tout cas qu'elle n'avait jamais ressenti à la naissance des trois premiers. Et qui ne s'appuie pour l'instant sur rien de rationnel. Son instinct de mère, peut-être, qui se traduit dans l'immédiat par une préoccupation. Il ne faut pas qu'il attrape froid. Alors elle le couvre, elle l'emmaillote comme elle ne l'a jamais fait avec les aînés. Et puis les semaines passent. Elle trouve que Gaspard est calme, mais à part ça, tout va bien. Arrive le baptême, 2 mois plus tard. À l'église, Marie-Axelle, qui est croyante, fait une prière à la Sainte Vierge. Toujours avec ce sentiment que Gaspard est fragile. Marie, je vous confie Gaspard. S'il nous arrive quelque chose, prenez soin de lui. Et là, en plein baptême, au milieu de ses parents, de ses beaux-parents, toute la famille est là. Elle sent monter en elle une terreur. Et elle éclate en sanglots. Et ensuite, il faut enchaîner. Il y a une petite fête, bien sûr. Et c'est là que l'un des oncles du petit Gaspard fait une remarque, sans méchanceté, mais cruelle. C'est étrange. On dirait que Gaspard a toujours sa petite langue sortie. Et là, d'un coup, Marie-Axelle a le ventre qui se noue. Parce que bien sûr, elle l'avait remarqué, sa petite langue qui est toujours sortie. Mais l'image était restée coincée entre ses yeux et ses méninges, sans doute. Elle n'avait pas verbalisé.
Ça a été le premier petit détail qui nous disait... Enfin, qui m'alertait, en tout cas. Qui me disait, il y a quelque chose, quand même, chez cet enfant. Pourquoi ? Il respire la bouche ouverte et pourquoi il sort toujours ce petit bout de langue?
Et puis après, on enchaîne. Parce que Gaspard, à part ça, ça va. Il a toujours sa petite langue qui dépasse, mais c'est un beau bébé et un bébé rieur en plus. Et puis au fil du temps, ce sont des détails qui vont venir s'ajouter les uns aux autres. D'abord, Gaspard fait de l'eczéma. Ensuite, il a les bronches encombrées. Et puis... il ne tient pas assis. Pire, quand on le porte dans les bras, sa tête pèse de tout son poids. Son cou ne tient pas sa tête.
À chaque fois, j'ai dit, Gaspard est un enfant particulier, Gaspard est un enfant différent. Il est différent de mes trois aînés. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose de différent.
Elle tâte le terrain auprès d'amis. Ça m'inquiète un peu. J'ai l'impression que Gaspard est, je sais pas, trop calme. C'était pas comme ça avec les grands. Il est différent. Et là, elle se dit. Et si Gaspard était handicapé?
Europe 1, on de la traconte.
Je Je vous raconte aujourd'hui la douloureuse histoire qu'ont vécu Benoît et Marie-Axel, qui seront là tout à l'heure, telle qu'ils la racontent dans leur livre qui vient de sortir, Gaspard en terre, aux éditions du Cerf. L'histoire de parents qui viennent d'accueillir leur quatrième enfant, Gaspard, et qui, dès les premiers mois, s'aperçoivent qu'il est différent des autres, qu'il n'évolue pas comme les trois aînés. Des petits détails. Et nous en étions au moment où la mère, Marie-Axel, ose se demander « Est-ce que Gaspard n'est pas handicapé ?» Elle se pose la question. Mais Benoît, son mari, il n'est pas inquiet. Ils sont allés voir des médecins, plusieurs médecins, pour avoir leur avis. Ils ont tous été rassurants.
Ne vous inquiétez pas. Gaspard prend son temps, c'est tout. Il a à peine 9 mois. Tous les enfants ne s'assoient pas forcément à cet âge-là.
Marie-Axel décide quand même de consulter un kinésithérapeute. À l'intuition, comme ça, sans prescription médicale. Elle sent que son bébé n'a pas le dos assez musclé. Et au bout d'un mois, aucun progrès.
J'ai amené Gaspard chez un kiné, 2 fois par semaine. J'allais avec ma petite poussette et lui dedans, chez une kinésithérapeute, pour aider Gaspard à comprendre son mécanisme, le fonctionnement de son corps, et qu'il ait envie de se tourner d'un côté et de se tourner de l'autre. Là, je sentais bien que la kiné, elle était un peu inquiète aussi. Mes questions étaient sans réponse et elle me demandait de continuer à aller voir des médecins.
Au tout début de l'été 2014, toute la famille déménage à Paris. Et Marie-Axel décide de prendre rendez-vous avec un neuropédiatre de l'hôpital de Garches. C'est l'un des temples de la médecine en banlieue ouest de Paris. Et là, il faut patienter, bien sûr. Rendez-vous fin août. Bon, eh bien partons en vacances, en Auvergne, chez les grands-parents. Toute la Smala est là, les oncles, les tantes, les cousins, il fait beau, il y a la piscine. Mais Gaspard, lui, il a toujours la tête aussi lourde. Quand on veut l'asseoir, il a le dos qui s'affaisse. Marie-Axel ne voit que ça. Mais autour, ça n'a l'air de gêner personne. Fin juillet, Gaspard vient d'avoir 11 mois. Marie-Axel décide de consulter un médecin généraliste du coin. Et lui, le généraliste auvergnat, il voit tout de suite qu'il y a un problème. Et il les dirige en urgence vers le service de pédiatrie de l'hôpital de Montluçon. Et le pédiatre ébauche un début de diagnostic.
Il est hypotonique, votre enfant.
Hypotonique ?
Oui, c'est-à-dire qu'il manque de tonicité musculaire.
Mais il va marcher un jour ?
Écoutez, je ne sais pas. Il faudrait passer des examens complémentaires.
C'est seulement à partir de ce moment-là que Benoît commence à entendre les inquiétudes de sa femme. Et encore, sans paniquer. Ils savent à ce moment-là qu'ils ont ce rendez-vous à Garches, fin août. Et en attendant, qu'est-ce que vous feriez, vous ? Google, évidemment. Hypotonie. Ne tient pas assis. Ne tient pas sa tête. Marie-Axel fait le tour d'Internet. Les sites spécialisés, les forums, les sérieux et les charlots. Et elle tombe sur des dizaines d'hypothèses. Elle lit des pages et des pages sur les maladies neurodégénératives. Des maladies qui attaquent le système nerveux et qui ont tout un point commun. Elles sont très graves. Et puis, fin août, arrive le rendez-vous chez la neuropédiatre de Garches. Et dans la salle d'attente, Benoît et Marie-Axel sont dans le bain. Sur les tables, il y a des flopées de prospectus sur les maladies neurologiques. Et des affiches du même tonneau au mur. Dyspraxie, dyslexie, dyscalculie, autisme, troubles neurologiques, troubles psychomoteurs.
Bonjour messieurs, dames.
La neuropédiatre les fait entrer dans son cabinet et les parents racontent leur histoire.
Bon, écoutez, on va procéder par étapes pour y voir plus clair. On va commencer par lui faire passer une IRM
et puis réaliser une prise de sang. Ça vous va ? L'IRM est une épreuve pour la maman. Voir son petit Gaspard lardé de bandelettes blanches comme une momie, avec ses deux petits yeux bleus qui dépassent, et cette machine qui va délivrer un verdict, c'est une épreuve. Et quand c'est fini, Marie-Axelle prend Gaspard dans ses bras.
T'inquiète pas, mon cœur. Allez, c'est fini. Ça va aller maintenant.
On leur présente un kinésithérapeute de l'hôpital, Corinne. Elle va s'occuper de Gaspard le temps que le diagnostic se précise. Elle veut le voir 3 fois par semaine. Et Marie-Axelle comprend que l'hôpital de Garches est en train de devenir sa deuxième maison. Le verdict tombe fin septembre. Un coup de fil de la neuropédiatre de Garches. Elle veut les voir tous les deux. Dans le livre, Marie-Axelle écrit « Je ne peux pas m'empêcher de penser que l'hôpital ne convoque jamais les deux parents s'il n'y a pas quelque chose d'important à annoncer. Je vais peut-être enfin savoir ce qu'a notre chaton. » Dans le bureau, ils sont 2 médecins et 1 interne pour leur annoncer la nouvelle. Et ils ne vont pas droit au but.
Comment ça se passe avec Gaspard ?
Et là, Benoît, en plein déni, répond.
Ça va, il se porte bien. J'ai l'impression qu'il progresse.
Mais là, Marie-Axelle dit qu'elle n'est pas d'accord, qu'il ne progresse pas, qu'il ne se porte pas bien. La neuropédiatre hoche la tête et doucement, tout doucement, elle leur dit « Gaspard ne pourra pas progresser. Il est atteint d'une maladie génétique, rare et sévère. C'est la maladie de Sandoff. »
Là, on a pleuré tous les deux. Parce que mon mari n'avait pas lu ce qu'était cette pathologie, mais moi, je savais déjà ce qu'on allait me dire après.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui une histoire douloureuse qu'ont vécu Benoît et Marie-Axelle, qui seront là tout à l'heure. Histoire qu'ils racontent dans un livre qui vient de sortir, Gaspard entre terre et ciel, aux éditions du Cerf. L'histoire de parents qui viennent d'accueillir leur 4e enfant, Gaspard, et qui, dès les premiers mois, s'aperçoivent qu'il est différent des autres, qu'il n'évolue pas comme ses 3 aînés. Et nous en étions au moment où un médecin pose un diagnostic. Gaspard est atteint par la maladie de Sandoff.
La maladie de Sandoff ? Oui. C'est pour cette raison qu'il n'arrive pas à s'asseoir et à tenir sa tête. C'est une maladie neurodégénérative, comme on dit. Et malheureusement, il n'existe aucun traitement adapté.
Ça veut dire qu'il va mourir ?
C'est une maladie génétique, madame. Petit à petit, ses muscles vont cesser de fonctionner. Son espérance de vie est de 4 ans environ. Je suis désolé.
Benoît et Marie-Axelle se prennent la main. Ils ont les larmes aux yeux.
On avait en tête toute cette négation, tout ce négatif. Gaspard ne fera pas. Et fort de tout ça, je me suis dit, certes, Gaspard ne fera pas. Et cette neuropédiatre avait vraiment eu raison de nous dire tout ce qu'il ne fera pas. Mais là, je me suis dit, ok, on sait tout ce qu'il ne fera pas. Mais il fera. Il fera. On sera là pour l'entourer, pour lui donner le plus d'amour possible. Mais il fera. Il fera de belles choses, il fera peut-être de petites choses, mais on l'entourera.
Dans son livre, Marie-Axelle écrit « Nous sommes au pied d'une montagne. Il nous faut à présent la gravir tout en apportant à notre enfant du bonheur et tout l'amour dont nous sommes capables. Je n'accueille pas la maladie avec bienveillance. » Elle va m'enlever mon tout petit, le fruit de mes entrailles. Mais j'accepte la maladie parce qu'elle s'impose à moi. Je ne peux pas dire non. Je ne peux pas lui refuser l'entrée de la maison. Et ensuite, naturellement, vient le temps des pourquoi. Pourquoi lui ? Pourquoi Gaspard ? Et pourquoi nous ? Pourquoi est-ce que ça nous arrive ? On ne peut pas éviter ces questions. Et après le temps des comment? Comment l'aider? Comment le soulager? Comment expliquer la maladie à ses frères et sœurs? Et puis bêtement, comment on va faire? Dans l'immédiat, Gaspard est pris en charge à l'hôpital de Garches, mais ça ne va pas durer indéfiniment. Qui va s'en occuper? Alors les parents se mettent à monter un dossier pour une prise en charge par la maison départementale pour handicapés. Marie-Axelle écrit « Il nous faut tous vivre, sachant que la mort est au bout du chemin. N'allons-nous pas tous mourir un jour? La perspective de notre inéluctable mort ne nous empêche pas de vivre. Alors le fait de savoir qu'il va mourir ne m'empêchera pas de le faire vivre. Je m'en fais la promesse. » La maison départementale répond en quelques jours. C'est assez rare pour le noter. Et elle accorde une aide. Gaspard sera pris en charge à la maison. Et voilà comment Christine, Florine, Marco, Patricia, Caroline, Angélique, qui sont éducateurs, psychomotriciens, ergothérapeutes, pédiatres, psychologues, kinésithérapeutes, médecins rééducateurs, entrent dans la vie de la famille. Début 2015, un gastro-entérologue suggère une opération. Il faudrait pratiquer une gastrostomie. Ça réglerait des problèmes de déglutition qu'il a. Et puis, ça permettra de le nourrir quand il ne pourra plus s'alimenter par la bouche. Une gastrostomie. Sur un bébé, c'est très rude. Ça consiste à installer un tube dans l'abdomen relié directement à l'estomac, au bout duquel on connecte une poche de lait. Et là, il faut faire le deuil du petit ventre tout rond et tout lisse de Gaspard. Et il faut aussi faire le deuil de son rire. Parce que Gaspard ne rit plus. Il sourit, parfois, mais plus un seul son ne sort de sa bouche. Il ne pleure plus, non plus. Au mieux, il fronce les sourcils. Marie-Axelle s'est adaptée. Elle a mis au point tout un système pour communiquer avec Gaspard.
Si tu veux que je te lise une histoire, tu me serres le doigt, d'accord ? Si tu préfères une chanson, tu regardes maman. Ou si tu veux te reposer, ben, tu bouges tes petits sourcils, d'accord ?
Et ce qui est terrible, c'est que quand Gaspard lui fait un signe, ou ce qu'elle croit être un signe, elle n'est jamais vraiment sûre d'avoir compris. Alors elle lui dit à voix basse.
« Excuse-moi, si ça n'est pas ce que tu m'avais demandé, mon petit cœur. »
En juillet 2015, Gaspard va avoir 2 ans. Et toute la famille part en vacances à Aix-en-Provence. Et partir loin de Paris avec Gaspard, c'est toute une histoire. Il faut trouver un kiné sur place et prévenir les hôpitaux alentours en cas de problème. Repérer les services de neuropédiatrie et ceux de réanimation. Et surtout, leur faire savoir ce qu'ils ont décidé, tous les deux. En cas d'urgence, ils ont rédigé ce qu'on appelle une fiche de directive anticipée. Ils ne veulent pas d'acharnement thérapeutique, pas de réanimation, pas d'intubation. À la fin de l'été, retour à Paris. Gaspard a 2 ans et sa maladie continue de progresser. Désormais, il ne peut presque plus rien avaler. Il mange encore des crèmes et des yaourts, mais rien d'autre. Et c'est là que le tube qui a été installé dans son petit ventre entre en action. Marie-Axelle écrit « La maladie m'impose d'arrêter de le nourrir moi-même. Je n'ai plus de cuisine à faire pour lui, plus de recettes à inventer, plus de plats à préparer. Cette épreuve s'ajoute à toutes les autres et je m'endeuille encore et à nouveau un peu plus. »
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui le drame vécu par un couple qui sera là avec moi dans un instant, Benoît et Marie-Axelle. Une histoire qu'ils racontent dans un livre qui vient de sortir, Gaspard entre terre et ciel, aux éditions du Cerf. L'histoire de parents qui viennent d'accueillir leur 4e enfant, Gaspard, et qui apprennent qu'il est atteint d'une maladie incurable, la maladie de Sandow. Les médecins leur annoncent que Gaspard ne vivra pas au-delà de l'âge de 4 ans. Alors ils se promettent de le faire vivre autant qu'ils le peuvent, jusqu'au bout. En novembre 2015, ça fait un peu plus d'un an que le diagnostic est posé. Et la santé de Gaspard se dégrade encore. Maintenant, il a du mal à respirer. Une infection des bronches, avec de la fièvre. Il faut l'hospitaliser. Et Benoît, le papa, supporte de plus en plus mal de ne pas pouvoir le soulager. Il se sent impuissant. Et il est impuissant. Je l'ai écouté respirer. Je l'ai regardé. Je l'ai embrassé. Il veut juste ça. Il veut juste que je l'aime. Il ne veut pas que je le guérisse. Il ne veut pas que j'élabore des plans furieux pour après-demain. Il veut qu'aujourd'hui, je l'aime. Et un soir, à l'hôpital, au pied du lit de Gaspard, Benoît se met à écrire, sur son ordinateur, des petits textes qu'il publie sur sa page Facebook. Et il n'en revient pas. Ces textes sont partagés par des milliers de personnes et on lui envoie des messages de soutien de partout. C'est à partir de là qu'avec Marie-Axelle, il crée une page Facebook entièrement dédiée à Gaspard. Gaspard entre terre et ciel, c'est le nom de la page. Et c'est comme ça que se constitue autour d'eux et de leur drame une communauté de plusieurs dizaines de milliers d'internautes. Est-ce que ça leur fait du bien? Je leur demanderai dans un instant. En attendant, le début de l'année 2016 est très difficile. Gaspard est rentré à la maison, il n'a plus d'infection, mais maintenant il a des spasmes musculaires. D'un coup, ses yeux se fixent et il devient tout mou, comme une poupée de chiffon. Signe que son cerveau ne commande plus ses muscles. En avril, l'état de Gaspard se détériore encore. À nouveau de la fièvre et les bronches encombrées, il faut le placer en réanimation sous antibiotiques. On a franchi un nouveau cap. C'est la dernière ligne droite qui se concrétise dans un terrible rendez-vous avec un médecin en charge des soins palliatifs en pédiatrie. Il s'agit d'accompagner Gaspard vers sa fin de vie. C'est un rendez-vous terrible, vous imaginez, on y parle réanimation, assistance respiratoire, trachéotomie. Comment savoir le jour venu? Quoi faire? Qui appeler? Et là, Benoît et Marie-Axelle ont les idées très claires. Ils veulent que ça se passe en HAD, c'est-à-dire en hospitalisation à domicile, pas à l'hôpital, à la maison.
Ça a été très dur de faire comprendre aux médecins de l'hôpital de Garches qu'on voulait mettre Gaspard en HAD. Mais on a quand même réussi. On a quand même réussi parce qu'on a essayé de montrer qu'on était capable d'être des parents qui entouraient notre enfant en HAD.
Et Gaspard quitte l'hôpital dès le lendemain. À dater de ce moment-là, Marie-Axelle et Benoît savent que Gaspard peut s'éteindre à n'importe quel moment. Alors ils ne le lâchent plus d'une semelle. Ils sont terrorisés à l'idée qu'il pourrait s'en aller sans eux. Marie-Axelle écrit « À partir de ce jour-là, je crains de m'éloigner de Gaspard, ne serait-ce que pour prendre une douche. J'imagine des scénarios atroces. J'accélère pour me shampouiner. Je laisse la porte ouverte pour écouter mon chaton respirer depuis sa chambre. J'angoisse dès qu'une inspiration saute ou qu'un gargarisme indique une nausée. Sitôt le pommeau de la douche raccroché, le peignoir endossé, ruisselante, je bondis près de lui et je ne me calme qu'en l'embrassant. Et puis arrive l'été 2016. Et chacun a bien compris que c'est le dernier été de Gaspard. Gaspard fait sa dernière sortie en famille, au mariage de son oncle et de sa tante, en Auvergne. Il est assis dans sa petite poussette bleue, habillé comme les autres, en garçon d'honneur. Le 30 août, Pour ses 3 ans, ses parents installent une petite table dans sa chambre, tout près de son lit. Ses frères et ses sœurs sont là, il y a un gâteau et 3 bougies, et on chante tout doucement. Joyeux anniversaire, Gaspard. Joyeux anniversaire. En janvier 2017, on est au bout. Gaspard s'affaiblit jour après jour. Marie-Axelle et Benoît le soulagent autant qu'ils peuvent. On diminue lentement ses doses de nourriture. Son corps ne les supporte plus. Le 31 janvier 2017, une dernière fois, Marie-Axelle prend son fils dans ses bras. Elle l'enveloppe dans une grosse couverture et elle le câline pendant des heures et des heures. Dernier moment de tendresse jusqu'au dernier souffle de vie.
14h-15h, on de l'être raconte sur Europe 1.
Je vous ai raconté aujourd'hui une histoire difficile, douloureuse, celle de parents à qui on annonce, quand leur petit garçon a 1 an, qu'il est atteint d'une maladie dégénérative qui s'appelle la maladie de Sandow et qu'il lui reste en gros 4 ans maximum à vivre. Cette histoire, je l'ai tirée d'un livre qui vient de paraître aux éditions du Cerf, Gaspard entre terre et ciel, écrit par ses parents qui sont là tous les deux, Benoît et Marie-Axelle Clermont. Merci d'abord pour votre confiance parce que vous m'avez confié une histoire extrêmement forte et que je suis toujours touché qu'on me confie une histoire. Alors, parlons de ce qui est un moment étonnant de votre récit. Ce moment où Marie-Axelle, vous rentrez de la maternité, donc Gaspard a 3 jours, hein, c'est une petite crevette encore un peu rougeote, et vous ressentez quelque chose que vous n'avez pas ressenti pour la naissance des 3 premiers, c'est votre 4e enfant. Vous avez un mauvais pressentiment. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes arrivé à expliquer ça?
C'est une sorte d'intuition. J'étais persuadée que Gaspard ne ferait pas sa rentrée en petite section de maternelle. Je ne l'emmènerais pas au club de foot. Ça me saisissait. C'était en moi. C'était vraiment une intuition qu'on appelle une intuition féminine. J'étais absolument persuadée que ce petit garçon ne vivrait pas longtemps et que je lui survivrais.
Alors Benoît, ça c'est on rentre dans un débat qui est vraiment intéressant, c'est est-ce qu'il existe un interne, alors vous dites féminin, peut-être maternel, peut-être le reste de ce cordon ombilical qui n'est coupé que depuis 3 jours et qui vous a relié à lui.
Absolument.
Ça c'est, vous acceptez ça Benoît, parce que vous ne sentez rien et puis ça va durer un bon moment.
Ouais, chez moi, aucun instinct maternel. J'accepte ça, mais après coup, parce que pendant que Marie-Axelle me fait part de ses intuitions, moi je crois pas à ses intuitions. Pour moi c'est pas possible, il y a rien de rationnel, donc je m'installe au fur et à mesure dans un déni, parce qu'en fait il y a quand même des petits signes qui pourraient m'indiquer qu'il se passe quelque chose d'embêtant.
Mais même moi, la petite langue qui dépasse, vous la voyez pas vous?
Non, moi je vois absolument rien. Et pourtant je l'écoute Marie-Axelle, mais voilà, c'est une forme de déni.
D'optimisme béat, peut-être.
D'optimisme, effectivement. Mais après, je crois vraiment pour autant au lien immense qui unit un bébé et sa maman dès la grossesse. Donc cet instinct maternel, je le comprends, mais je le vis pas. Et du coup, pour moi, ça reste un mystère qui, aujourd'hui encore, impossible à percer.
Bon, en même temps, vous êtes maman au foyer, Marie-Axelle. Vous travaillez, vous êtes militaire, donc probablement assez souvent absent.
Absent parfois, oui.
Donc ceci peut expliquer cela, non?
Peut-être, on peut vraiment conclure en utilisant ce terme d'instinct, d'intuition féminine. Exactement, lié à la maternité, et c'est quelque chose qui ne passera jamais.
La petite langue qui sort, qui est ce premier signe visible, vous le savez, vous en tout cas, bien avant que le tonton en fasse la remarque le jour du baptême. Ou c'est pas descendu jusqu'au cerveau?
Non, c'était pas
monté
descendu
jusqu'au cerveau.
Oui, c'était pas monté ou descendu jusqu'au cerveau, effectivement. Non, c'est lui qui m'a alerté. Je l'avais vu, mais je ne m'y étais pas arrêtée. Et c'est lui qui a mis des mots sur ce que je pensais, mais assez loin dans ma tête, en fait. Et je remercie vraiment ce cher beau-frère d'avoir mis le doigt sur ce détail. C'était important.
C'est votre frère, Benoît?
Oui, c'est mon frère, oui.
C'est-à-dire que lui, il voit des trucs que vous voyez pas.
C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez raison, il a vu quelque chose que j'avais pas vu. Après, moi, je pense qu'en fait, j'avais vraiment un déni. C'était pas tellement que je voyais pas, c'est que je voulais pas voir. Il était hors de question d'imaginer qu'il puisse m'arriver quelque chose. On avait vraiment eu une première partie de mariage extraordinairement belle, sans aucun problème. Et voilà, c'est ce genre de choses qui arrivent qu'aux autres, normalement.
Ouais. Alors, il y a ces vacances en famille, en Auvergne, chez vous, Marie-Axelle, chez vos parents, dans la maison familiale. Donc, on imagine la scène, c'est l'été, il y a la piscine. Vous, vous ne voyez que les problèmes que présente Gaspard, mais personne ne voit rien. Et là, c'est donc pas une intuition féminine, parce que votre maman est là. Elle ne le voit pas non plus, elle. Ou si.
Je raconte ça dans le livre, c'est un très beau passage et je m'aperçois en parlant pendant ces vacances avec ma mère qu'elle n'en pense pas moins.
Ah.
Voilà, exactement. Et qu'elle aussi a été très alertée et elle ne le verbalisait pas, mais je me souviens encore de ce jour où je m'en suis aperçue en faisant les courses pour la grande famille. J'étais dans les rayons des couches et j'en parle dans le livre, et ce jour-là, je suis rentrée chez moi, j'en ai parlé à maman, je me suis dit, bah voilà, cet enfant ne sera jamais propre. Et on m'a dit, c'est possible, mais je serai là pour t'aider.
On va marquer une pause, et ensuite je voudrais qu'on parle de quelque chose qui était sous-tendu dans mon récit, sur lequel je n'ai pas vraiment appuyé, mais je pense que les gens l'ont entendu, notamment au moment où vous faites cette prière à la Vierge Marie. Vous êtes chrétien. Et évidemment, ça m'intéresse de savoir si ça vous a aidé à aborder cette épreuve et de quelle manière.
Europe 1, on de la raconte.
Nous sommes dans la dernière ligne droite de cette émission. Aujourd'hui, je vous ai raconté une histoire difficile, celle de parents à qui on annonce que leur petit garçon de 1 an est atteint d'une maladie dégénérative qui s'appelle la maladie de Sandow et qui lui reste au maximum 4 ans à vivre. Vous avez fait tous les deux, Marie-Axelle Clermont et Benoît Clermont, le récit de cette histoire qui a frappé votre famille dans un livre qui vient de paraître, Gaspard entre terre et ciel, aux éditions du Cerf. Et je voudrais qu'on parle de ce qui transparaît évidemment dans votre récit et qui a transparu tout à l'heure dans le mien par cette prière que vous faites à la Vierge Marie le jour de son baptême pour demander qu'elle le protège s'il vous arrivait quelque chose. Vous êtes chrétiens tous les deux et évidemment je voudrais savoir si ça vous a aidé d'une manière ou d'une autre à aborder cette épreuve. Benoît.
Déjà la première chose qu'il me semble importante de dire, c'est que ça nous a exempté en rien de la moindre souffrance. L'annonce du diagnostic, la maladie, les souffrances de Gaspard, le décès de Gaspard, ça a été un drame immense. On a vécu des moments terribles. Et la foi, c'est pas un anesthésiant. Ça n'anesthésie pas la douleur. Pour autant, c'est une vraie consolation. Parce qu'on pense, et c'est le titre de notre livre, que Gaspard, il est au ciel. Gaspard, il a vécu sur la terre, maintenant il est au ciel. On a une vraie espérance qu'aujourd'hui, d'une façon qui nous... extrêmement difficile de comprendre. Il vit encore au ciel et en cela, c'est une immense consolation. Voilà. Mais on a quand même beaucoup souffert.
Marie-Axelle, là-dessus, comment est-ce que ça vous aide, vous ?
Ça m'a aidé dans le sens où j'ai grandi. J'ai grandi en ayant la foi. J'ose dire qu'avant Gaspard, ma foi était peut-être de façade. D'obligation dominicale, peut-être. Voilà. Et grâce à Gaspard, je me suis ancrée en la foi. C'est-à-dire qu'elle m'a effectivement réconfortée, effectivement, comme dit Benoît, consolée, parce que je crois que si j'ai une belle vie sur la terre, j'arriverai un jour au ciel pour retrouver mon fils et pour l'embrasser, comme dit Benoît, sur ses deux joues.
Moi, ce que j'ai perçu, c'est que votre foi intervient sur quelque chose qui est assez simple à comprendre, c'est une capacité à positiver. Là, on vous dit, il ne fera pas ça, il ne grandira pas, il n'ira pas à l'école, il ne marchera jamais, il ne se tiendra jamais droit. Vous vous dites, il fera ci, il fera là. Et ça, pardon, mais est-ce que ça n'est pas une déformation professionnelle de chrétien ?
Si, mais je crois que c'est une belle déformation. C'est croire que chaque belle chose qui nous arrive, c'est une forme de miracle. Croire qu'on peut réussir chaque instant, qu'on peut vivre d'une manière belle chaque instant et qu'effectivement, Gaspard, il a vécu peu, une vie très courte, mais qu'on l'a comblé d'amour et qu'en fait, ça, cette capacité à donner de l'amour à ceux qui nous entourent à chaque instant, on la possède tous. Donc ça doit, évidemment, il y a une forme de joie profonde et ça, elle nous vient pas que de la foi, du sentiment que vous aussi, Christophe, vous êtes une extrêmement belle personne et que dans le moment que je dois passer avec vous, il faut que ce soit un beau moment. Moi, je pense pas que la foi, ça soit la. Enfin, moi, je crois vraiment, mais je pense pas que ce soit la seule solution. Mmh. Voilà.
Le choix de mourir à domicile. Qui est un choix particulier pour un enfant. D'ailleurs, vous l'expliquez très bien. L'hôpital de Garches n'était pas tellement partant. C'est pas courant que des parents demandent qu'un enfant décède à domicile. Une personne âgée, ça arrive. Un enfant, ça n'est pas évident. Et pourtant, ça avait l'air d'être extrêmement clair pour vous.
Oui, au départ, ça l'était pas totalement, dans le sens où je ne savais pas si moi j'allais être prête à pouvoir recueillir le dernier souffle de mon fils dans mes bras. Mais nous nous sommes dit que pour des raisons pratiques, nous étions très éclatés. Gaspard était à l'hôpital, j'étais avec lui pendant la journée, nos trois aînés étaient à l'école, Benoît rentrait du travail à l'hôpital, et ça générait plein de complications parce qu'on n'était jamais ensemble. Donc la première valeur qui nous a importé, c'était vraiment de remettre Gaspard au cœur de notre maison, au cœur de notre foyer, pour que la vie se passe autour de lui. Mmh. Et c'est comme ça qu'on a décidé d'installer Gaspard à domicile, pour que nous soyons toujours là, près de lui, pour vivre les derniers instants qu'il avait à vivre avec nous.
14h-15h,
on de la raconte sur Europe 1.